Le journal est présenté par Ézéchiel Fernandez.
Bonsoir à tous. L'Italie sous le choc après l'effondrement d'un viaduc autoroutier à Gênes. Le bilan est encore incertain, plusieurs dizaines de morts, c'est une certitude. La cause de la catastrophe serait structurelle. Nous retrouverons sur place Antonino Garofalo. L'Aquarius va pouvoir accoster à Malte. Un accord entre 6 pays permet finalement au navire d'SOS Méditerranée de débarquer les 141 migrants recueillis. L'Europe se rattrape, estime Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Vous l'entendrez dans ce journal. La démonstration de force en ce moment des talibans en Afghanistan. Les combats font rage dans le centre et le nord du pays. Des offensives pour prouver que rien ne peut se faire sans eux, alors que se profilent des négociations de paix. Et puis la première exécution d'un condamné à mort au Nebraska, l'État américain depuis plus de 20 ans. Il a subi une injection létale aujourd'hui, en dépit de l'action judiciaire intentée par un laboratoire pharmaceutique allemand. C'est une tragédie incroyable, parce qu'elle ne vient pas d'une explosion ou d'un accident et nous travaillons sur l'hypothèse d'un affaissement structurel. C'est une phrase prononcée ce soir par le président du Conseil italien Giuseppe Conte qui s'est rendu sur les lieux de la catastrophe à Gênes, dans le nord de la péninsule, là où un pont autoroutier, le pont Morandi, s'est effondré en fin de matinée, alors qu'il est impossible de dresser le bilan. 22 morts, 35 selon d'autres sources, en tout cas une trentaine de véhicules, voitures et camions ont plongé dans le vide, une chute de plus de 40 mètres. À Gênes, la correspondance d'Antonino Garofalo.
Ces victimes ont fait une chute de plusieurs dizaines de mètres quand le viaduc a cédé. Au milieu de décombres, le décor qu'ont alors trouvé les secours en contrebas peu après-midi est un véritable enfer, pour reprendre leurs mots. Des voitures détruites, écrasées sous des blocs de béton, des camions retournés quand ils ne sont pas pris dans les eaux du fleuve qui passe sous le viaduc. Selon l'agence de presse ANSA, au moins 30 voitures et 3 poids lourds auraient été emportés dans l'effondrement. Des plaques de béton se sont écroulées aussi sur des immeubles qui ont été évacués. 2 personnes ont été blessées lorsque leur bâtiment a reçu le choc. Dans un autre immeuble, un incendie s'est déclaré asphyxiant une femme de 75 ans. Tous les édifices alentours sous viaduc ont donc été évacués car il y a encore le risque que d'autres parties du pont s'écroulent. On ne sait pas encore exactement ce qui a provoqué la chute de ce pont central pour Gênes car il est au cœur d'un routier qui permet de relier aussi la France. La presse italienne évoque une défaillance structurelle de l'un des piliers, mais dans le même temps elle reprend les paroles de ses témoins qui auraient vu la foudre frapper le pont peu après 11h30, donc plusieurs minutes avant le drame.
Antonino Garofalo en direct de Gênes. Selon des experts, le pont Morandi est un ouvrage en béton de la fin des années 60 qui a déjà connu à de nombreuses reprises des problèmes structurels et cela dès sa construction. Des travaux de consolidation étaient d'ailleurs, semble-t-il, en cours sur la base du viaduc. L'autoroute A10 est très fréquentée. C'est l'axe qui relie Gênes à Vintimille, à la frontière française. Elle compte dans ce secteur un nombre impressionnant de viaducs et de tunnels. Sans doute un acte terroriste à Londres. C'est en tout cas ainsi que le qualifie la police britannique. Un automobiliste a foncé ce matin sur des passants devant le Parlement de Westminster. 3 personnes ont été blessées. La voiture a fini sa course dans une barrière de sécurité. Le conducteur, âgé de 29 ans, a été interpellé sans aucun problème, mais il n'a pas pour l'instant donné d'explication à son geste. La situation s'est donc débloquée aujourd'hui pour l'Aquarius, le navire affrété par SOS Méditerranée pour secourir les migrants. Après plusieurs jours d'errance, le bateau fait route en ce moment pour Malte. Malte qui a finalement autorisé le bateau à accoster après que 5 autres pays européens se sont engagés à accueillir une partie des 141 migrants. 60 seront dirigés vers l'Espagne, autant vers la France, les autres vers le Portugal, l'Allemagne et le Luxembourg. Une solution concertée qui peut laisser espérer que l'Europe vienne franchir une étape déterminante dans la gestion de ce problème humanitaire. Et un accord salué en tout cas par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères.
C'est un accord qui, finalement, rend un peu son honneur à l'Europe dans cette affaire. C'est un accord qui a été souhaité par Malte, à qui je pense qu'il faut rendre hommage. C'est un accord qui a été souhaité par la France. C'est un accord qui montre que nous pouvons faire preuve de démonstration de solidarité concrète lorsqu'il y a une volonté commune. Et ce n'est pas par des slogans que nous pouvons régler la crise migratoire, mais lorsqu'il y a une crise humanitaire, on peut trouver des solutions pragmatiques et c'en est la démonstration. Et je m'en réjouis. C'est pas la première fois. J'ai eu ce même type de réaction de coopération en Espagne, mais c'est la première fois que c'est aussi large, puisqu'il y a à la fois Malte, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal, l'Espagne. Tous ces pays se sont mis ensemble pour trouver une solution digne à l'égard de ces réfugiés. Et la France, effectivement, effectivement, on accueillera 60 des autres pays, d'autres migrants sur les 141 qui étaient sur l'Aquarius.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, pour SOS Méditerranée, cet accord entre 6 pays au total est un signe positif que les pays ont compris que c'est un problème commun et un premier pas vers un mécanisme européen plus pérenne. En Afghanistan, l'armée appuyée par l'aviation américaine affirme avoir repris aux talibans le contrôle de Ghazni, une ville du centre du pays, à 2 heures seulement de route de la capitale Kaboul. Les talibans, de leur côté, se sont emparés ce matin d'une base militaire dans le nord du pays. Cette recrudescence des combats, qui ont fait d'ailleurs des centaines de morts, intervient dans le contexte de perspectives très incertaines de négociations de paix. Pour les talibans, il s'agit, selon Karim Pakzad, de montrer qu'ils peuvent frapper dur et n'importe où. Karim Pakzad est chercheur à l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique.
On se trouve dans une situation extrêmement compliquée en Afghanistan depuis 2 semaines, aussi bien sur le plan politique que militaire. D'abord sur le plan politique, les talibans ont pour la première fois eu un succès considérable, à savoir l'amorce des discussions directes, officielles avec les États-Unis qui ont eu lieu la semaine dernière à Qatar. Ce succès politique est accompagné par une offensive tout azimut sur le terrain. Il n'y a pas que cette base dans le nord de l'Afghanistan. Depuis 5 jours, il y a des combats à 2 heures de Kaboul. La province de Ghazni, ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est une ville historique extrêmement importante des pays musulmans ou des pays islamiques l'ont considérée comme la capitale culturelle et des arts de l'islam. Donc cette province est depuis 5 jours le théâtre de combat. Le gouvernement a admis que plus d'une centaine de soldats ont été tués. Ce matin même, une organisation non gouvernementale a acheminé 200 cercueils dans cette ville parce qu'il y a des morts partout dans les rues où il n'y a personne pour les ramasser. Donc moi je pense que les talibans préparent les négociations sur l'avenir de l'Afghanistan dans une position de force. D'ores et déjà, les talibans contrôlent presque moitié du pays. Mais là, aujourd'hui, avec ces offensives dans le nord et surtout dans la ville de Ghazni, montrent qu'ils sont plus forts que jamais.
Karim Pakzad de l'IRIS, propos recueillis pour France Culture par Valérie Crova. Dans l'attente des résultats du second tour de la présidentielle au Mali, l'équipe de campagne du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, le déclare confortablement réélu. C'est ce qu'ils ont affirmé aujourd'hui. Au premier tour, il avait recueilli 41% des suffrages, loin devant les 18% de Soumaïla Cissé, l'opposant qui dénonce d'ailleurs toujours une fraude électorale et appelle ses partisans à ne pas reconnaître la victoire du sortant. Les observateurs de l'Union européenne disent pour leur part avoir observé des problèmes d'irrégularité, certes, mais pas de fraude à proprement parler à propos de cette présidentielle au Mali. Toujours sur le continent africain, la nouvelle épidémie de fièvre Ebola a coûté la vie à 41 personnes en République démocratique du Congo, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pour la première fois depuis l'annonce de l'épidémie, le 1er août dernier, un décès a été enregistré en dehors du Nord Kivu, dans une province voisine. Aux États-Unis, il y a eu lieu aujourd'hui, dans l'État du Nebraska, la première exécution d'un prisonnier depuis plus de 20 ans, depuis 1997. Carrie Dean Moore, âgé de 60 ans, condamné à mort pour avoir tué 2 chauffeurs de taxi en 1979, a subi la première injection létale contenant du fentanyl. C'est un opioïde très puissant dont l'usage est controversé. Un laboratoire pharmaceutique allemand a tenté de stopper cette condamnation à mort, en refusant qu'un de ses produits soit utilisé pour une exécution. La justice américaine lui a donné tort. C'est la 16e exécution aux États-Unis depuis le début de l'année, dont la moitié au Texas, et aujourd'hui donc au Nebraska. L'universitaire Claude Guillemot est spécialiste de ces questions des prisons et des couloirs de la mort aux USA.
C'est un cocktail complètement nouveau, qui n'est pas du tout vérifié médicalement. Il lui administrait d'abord un sédatif, le diazépam, et ensuite ce produit donc du laboratoire allemand, le fentanyl, extrêmement controversé. Le laboratoire allemand a fait appel, a déposé une plainte au civil, mais son appel a été rejeté par le tribunal fédéral, ce qui est un peu inquiétant quand même. Et l'argument du directeur de prison, ça a été qu'il fallait l'utiliser tout de suite parce qu'il y avait une date de péremption, il avait peur qu'ensuite il ne soit plus bon. Ce fentanyl est responsable et 50 fois plus fort que l'héroïne, et il est responsable de 20 000 à 30 000 morts aux États-Unis parmi les gens qui sont dépendants à la drogue. C'est quelque chose qui fait des ravages épouvantables.
Comment expliquez-vous finalement cette reprise des exécutions au Nebraska ?
Dans certains États, on abolit la peine de mort, mais dans d'autres États, comme c'est le cas donc au Nebraska, on la rétablit. C'est une Amérique qui est extrêmement divisée. 30% de la population extrêmement conservatrice, 30% qui est très progressiste, c'est ce qu'on a vu avec Bernie Sanders, puis 30% qui ne se prononcent pas, et il y a beaucoup de gens qui ne votent pas de toute façon. C'est le paradoxe américain. Moi, je suis toujours très réticente quand on me dit « Oh, la peine de mort, elle est en bonne voie, elle va être abolie aux États-Unis ». Je suis toujours très réticente parce qu'ils sont extrêmement attachés.
Claude de Guillemot, interrogé pour France Culture par Nadine Epstein. Le soleil revient en force demain, journée calme d'ailleurs, avec des maximales comprises globalement entre 26 et 34 degrés. Fin de cette édition, vous retrouverez demain matin Sophie Delpont dès 7h.